buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. Aslı Erdoğan n'a plus l'interdiction de se rendre à l'étranger. Une décision prise ce jeudi par un tribunal turc. Pas sûr pour autant que la romancière qui a passé 4 mois en prison, accusée de propagande terroriste, puisse vraiment quitter son pays. C'est au ministère de l'Intérieur de décider. Aslı Erdoğan n'est pas et de loin la seule intellectuelle turque à être victime des purges qui ont suivi le putsch manqué du 15 juillet dernier. Nombreux sont celles et ceux, chercheurs, universitaires, qui ont fui leur pays et qui, de l'étranger, organisent la résistance intellectuelle. Ils dénoncent la répression du président Erdoğan et demandent la paix au Kurdistan. Il y a quelques jours, ils ont lancé un appel au boycott pour mettre fin aux collaborations avec les universités turques jugées complices. Ces chercheurs demandent aux facultés du monde entier d'accueillir les intellectuels persécutés. En Suisse, Daphné Gastaldi a rencontré 2 académiciens à l'origine de ce combat.
Si vous voulez faire quelque chose pour nous, élevez notre voix à l'international. Faites cesser les licenciements illégaux arbitraires en Turquie. Universitaire pour la paix de Suisse.
À Genève, ils sont une poignée d'irréductibles. Des universitaires de Turquie renommés qui dénoncent l'autoritarisme d'Erdoğan. Ils sont 4 exilés sur le territoire. Parmi eux, Engin Sustan a quitté Istanbul. Considéré comme un traître à la nation, il ne peut retourner en Turquie. Il a été un des premiers à paraffer la pétition des universitaires pour la paix dans la région kurde, une signature qui a valu à des centaines d'intellectuels turcs de subir une chasse aux sorcières, des licenciements ou un harcèlement judiciaire pour complicité de terrorisme.
On est à l'intérieur de l'université de Genève maintenant. On va à présent à mon bureau, au 6e étage. Je suis Engin Sustan, je suis kurde à Lévis, et surtout j'étais un intellectuel politique activiste. Moi je ne suis pas militant, mais un intellectuel politique activiste, c'est-à-dire qui soutient exactement toutes les actions qui viennent exactement des étudiants LGBTI, des féministes, des Kurdes, des Alévites, de la gauche.
Quand on est exilé, qu'on a dû fuir son pays, qu'on a ses collègues qui sont restés en Turquie ou qui sont disséminés en Europe, comment on organise la résistance intellectuelle ?
On essaie de soutenir par les manifestations aussi, soit ici à Paris ou à Berlin ou à Londres. On a parlé à l'ONU. Et puis, on essaie d'organiser plutôt de la résistance intellectuelle à travers des écrits déjà, des conférences. On ne voulait pas nous taire, même si on est exilé ici. On est toujours dans cette cause politique. C'est parce qu'on ne voulait pas ni un pays fasciste, ni un gouvernement totalitaire, on demande exactement d'arrêter la guerre.
Dans quelques semaines, cet opposant déménagera en France grâce à une bourse du programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil lancée récemment par le ministère de l'Éducation français. Jusqu'à présent, il était dans une situation précaire avec un statut d'hôte académique en Suisse, mais sans permis de travail. L'Université de Genève fait partie d'un réseau de solidarité. Bernard de Barbieux est le doyen de la Faculté des sciences de la société.
C'est à la fois humanitaire, solidaire, et en même temps, ça participe, je dirais, de la culture de base du monde académique. Nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle Scholars at Risk, effectivement, qui est un réseau mondial d'universités qui se sont engagées à se préoccuper justement de la situation de professeurs ou de collaborateurs dans les universités dans le monde qui seraient en situation périlleuse, at risk. C'est un réseau qui cherche à éveiller les consciences, qui également essaye de dégager un peu de moyens pour permettre justement à des personnes particulièrement menacées pour prendre le temps de s'installer et puis d'essayer de trouver des moyens d'existence et des moyens de travail plus pérennes.
Prise pour cible également, Chala Ekaç était chargée de cours en sciences politiques à Istanbul. Désormais en Suisse, elle milite pour l'accueil d'universitaires de Turquie en Europe. Ce jour-là, elle intervient lors d'un festival de l'autre côté de la frontière, à Lyon, en France.
En ce moment, on est 4 en Suisse. Ouais. En Allemagne, il y a plus de 150 universitaires qui sont dans des universités allemandes. Et en France, c'est des dizaines de personnes. On a un fonds commun et à l'intérieur de la Turquie et un fonds à compte en banque qui est en Belgique où on essaye de collecter des fonds pour toutes les personnes qui ont été licenciées. Donc on a des centaines de collègues qui sont sans emploi, sans passeport, qui ne peuvent plus quitter le pays non plus. Donc il y a pas mal de façons différentes dont on agit. Ouais.
Tant bien que mal, Tchala et Katch essayent de trouver des solutions et des bourses pour ces intellectuels en détresse. Elles s'alarment de la vague de répression dans son pays après le putsch manqué de juillet 2016. Avec l'état d'urgence, plus de 100 000 fonctionnaires ont été révoqués par décret, dont plus de 8 000 universitaires.
Un an après le coup d'État, ce qu'on voit, c'est toutes les institutions de l'État qui sont complètement défaites, dont le système éducatif, le système juridique, les hôpitaux qui ne fonctionnent plus vraiment. Au niveau associatif, c'est toutes les associations, tous les journaux indépendants qui ont été défaits, qui se font complètement neutraliser. Destruction aussi parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en prison en ce moment, qui ne peuvent plus faire leur travail. Voilà, c'est la destruction.
À distance, cet universitaire progressiste soutient autant que possible les académies de rue. Ses cours donnés dans des cafés ou des jardins publics par des enseignants bannis des universités fidèles au président Erdogan. Une façon de résister face à la répression.
Le reportage de Daphné Gastaldi du collectif de journalistes We Report. Entendu, l'Allemagne est le premier refuge des intellectuels turcs. Parmi les dispositifs mis en place, l'initiative Philippe Schwarz. Précision de Pauline Curtet.
Lancée l'an dernier par une fondation et le ministère allemand des Affaires étrangères, l'initiative Philippe Schwarz consistait au départ à accorder un financement aux universités qui accepteraient d'accueillir des chercheurs syriens dans leur équipe. Mais à l'arrivée, et cela n'est pas passé inaperçu en Allemagne, l'initiative protège et finance de plus en plus d'universitaires turcs, 6 boursiers sur 23 accueillis en 2016. Cette année, ce sont 21 chercheurs d'origine turque sur 39 boursiers qui en bénéficient. Ils travaillent dans des disciplines très variées, parfois très éloignées des questions politiques. Ces chiffres le montrent bien, pour les intellectuels turcs, il y a urgence. D'ailleurs, depuis la tentative ratée de coup d'État turc de l'été dernier et la répression qui a suivi, des universitaires allemands répètent dans la presse qu'il faut absolument aider leurs collègues menacés par le gouvernement d'Erdogan. Et au passage, ils critiquent le dispositif actuel, rappelant que cette bourse, la seule du genre en Allemagne, accueille seulement quelques dizaines de réfugiés chaque année. Sans compter qu'elle est limitée dans le temps. Les chercheurs risquent donc de perdre leur visa lorsque le financement de leur travail s'arrête. Or pour eux, revenir dans leur pays après des années d'exil peut s'avérer très dangereux.
De l'influence des émissions télévisées sur la communication. Cette semaine, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, était organisé à Bruxelles un pastiche de la célèbre émission The Voice. Pas question de chanter pour ses participants à ce Spark Show, mais bien de défendre leur projet en 3 minutes. 6 entrepreneurs faisaient face à plusieurs journalistes, plus une observatrice, notre correspondante Laxmi Lota.
Sur le podium, 7 journalistes de la presse internationale. Face à eux, des buzzers. Christian de Boisredon, fondateur de Spark News, s'est inspiré de la célèbre émission de télévision The Voice.
En fait, c'est vrai que souvent les événements peuvent être un peu ennuyeux ou souvent les journalistes ont du mal à repérer des projets intéressants. Et donc on s'est inspiré de The Voice, l'émission de télé bien connue, où en fait c'est un peu un The Voice for Good. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on choisit 6 projets et les journalistes sont derrière des buzzers. Et quand le journaliste est séduit par le projet, il appuie sur le buzzer et ça veut dire, a priori, qu'il a envie de faire un article ou un reportage. Et voilà. Et pour l'audience, ça c'est sympa parce que les gens se demandent, est-ce que les journalistes vont buzzer ou pas. Et aussi, en fait, on demande aux journalistes pourquoi ils ont apprécié le projet ou pas. Et donc, ils donnent des conseils.
Pour les entrepreneurs, c'est une manière rapide de faire connaître leurs inventions, leurs innovations au grand public et aux potentiels investisseurs. Parmi les projets, ce réfrigérateur qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner, juste un peu d'eau. La société Coulard espère vendre son concept à des ONG qui travaillent dans des camps de réfugiés par exemple, un moyen de réfrigérer des médicaments notamment. Autre invention, des lampes qui purifient l'atmosphère grâce à l'utilisation du gypse. Sarah Pedroni de la société Boutzi Boutzi.
La chose la plus innovante, c'est le matériel que nous avons réalisé. Il s'appelle Air Coral et il a la capacité d'être antipolluant et antibactérien. Ça signifie que pour une caractéristique du matériel, il est capable de diviser les polluants de l'atmosphère et donc c'est un matériel qui peut être utilisé dans les hôpitaux ou bien dans les écoles maternelles et dans toutes les situations où il y a besoin d'un environnement le plus salubre possible, le plus hygiénique possible.
Les projets sont innovants, positifs, c'est ce que souhaite défendre Christian de Boisredon, le fondateur de Spark News.
Notre mission, c'est d'amplifier la transformation positive du monde, et notamment avec les médias et toutes les organisations pour faire connaître les innovations positives qui changent le monde. C'est un peu prétentieux, mais voilà, donc on est un maillon dans la chaîne.
I would like to give the floor to the founder of Solar Brush, Rida Aziz.
Sur scène arrive Rida Aziz d'Aerial Power. Il est l'inventeur d'un drone qui nettoie les panneaux solaires. Sa présentation est un succès. Les journalistes appuient sur le buzzer à l'unanimité. Rida Aziz.
J'ai inventé le premier drone autonome au monde qui nettoie les panneaux solaires. Nous visons les marchés dans les pays très chauds, où il ne pleut presque pas. Ces pays sont très ensoleillés, l'utilisation de l'énergie solaire semble évidente. Cependant, dans ces pays, vous n'avez pas de pluie. Il y a aussi des tempêtes de sable de temps à autre. Des études montrent qu'aux Émirats arabes unis, par exemple, sur un mois, 35% de l'énergie est perdue. On monte à 80% de pertes après une tempête de sable.
Cette invention n'est pas encore mise sur le marché, des tests sont actuellement effectués en Inde et en Australie. Être le relais de ces idées qui peuvent changer le monde, c'est l'ambition de Spark News. Christian de Boisredon s'est inspiré de l'expérience de son frère au Chili pour lancer son entreprise.
Ce qui a été décisif pour moi, c'est que quand j'avais 14 ans, mon frère a créé avec un de ses amis la première banque de microcrédit. Et donc je suis allé lui rendre visite avec ma famille dans les bidonvilles et ça m'a profondément touché. Des hommes et des femmes qui entreprenaient, qui étaient positifs, qui avaient des situations très compliquées. Donc j'ai eu envie en fait de parler de ces gens-là, de parler de toutes ces initiatives qui sont des coups de pouce pour tous les hommes et les femmes qui se battent dans le monde, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent des puissants et pas assez de ceux qui font.
Pour les journalistes, juge des prestations, c'est une expérience réussie.
Bryony Bennett, je travaille pour Bloomberg New Energy Finance qui est à Londres. J'ai trouvé ça fun également, j'étais super impressionnée par toutes les entreprises et les entrepreneurs qui ont des idées très créatives.
Nicolas Gaspard de Nostalgie. Ça change des conférences de presse à rallonge auxquelles on a l'habitude d'assister. C'est plutôt amusant de se mettre dans la peau des coachs de célèbres émissions de télévision.
Les inventeurs, eux, pensent déjà à leur future innovation.
En Irlande, le solstice d'été est désormais synonyme de week-end de fête. Et pour cause, chaque année se tient le festival Body and Soul au nord-ouest de Dublin. Un événement au départ musical, mais qui au fil du temps s'est développé jusqu'à devenir polymorphe et quasi incontournable. Rendez-vous atypique qui attire de plus en plus d'Irlandais, séduits par le cadre et la philosophie de l'événement. Julien Lagache.
Premier conseil avant de partir, ne pas oublier lunettes de soleil et bottes en caoutchouc. N'importe quel habitué vous le dira, la météo est souvent capricieuse à Westmeath et l'on peut baigner dans la chaleur comme dans la gadoue. Mieux vaut être prévoyant et garder le sourire en toutes circonstances. C'est d'ailleurs l'état d'esprit recherché par les organisateurs qui prônent le rassemblement d'une communauté de pensée. Cela se passe sur les terres du château de Ballinlock, une demeure bâtie au XVIIe siècle et habitée depuis par la famille Nugent, qui prête régulièrement son champ bordé de bois et de lacs à des événements comme Body and Soul, un carrefour où se croisent des gens amateurs d'arts au pluriel, ouverts à la découverte et prêts à se mouiller. Au propre comme au figuré d'ailleurs, puisque le festival propose notamment des séances de bains aux algues, des randonnées ou une discothèque nocturne dans les bois, même par temps pluvieux. On y trouve également de la méditation, différents types de cuisine, autrement dit tout pour aiguiser ses sens, avec bien sûr les concerts, beaucoup de musique électronique cette année encore, avec les têtes d'affiche Metronomy, Bonobo et Vitalik, mais les styles sont là encore assez variés et c'est aussi l'occasion de voir de nouveaux talents. C'est peut-être ce qui a fait le succès de ce rendez-vous, sacré meilleur petit festival d'Irlande en 2010. Il a rassemblé plus de 15 000 personnes l'an dernier. Et plus le public est nombreux, plus le message de l'événement porte, car les organisateurs comptent sur ces quelques jours pour développer une culture de l'écologie absente en Irlande, selon eux. Leur objectif, tout miser sur le recyclage, le compostage de déchets, un camping vert et la plantation d'arbres pour limiter l'empreinte carbone, afin d'atteindre un jour un festival zéro déchet et basse consommation énergétique. Hush, little baby, it's only rock and roll, and rock and roll is good for your soul.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Aujourd'hui dans votre chronique musique, vous nous parlez d'une artiste. Alors je ne sais pas si elle est passée par le festival Body Soul de Dublin, mais en tout cas elle est très pressée Vincent.
Pas de temps à perdre pour la jeune auteure-compositrice hollandaise Amnelotte de Graaf, qu'on a découvert il y a pile un an avec son premier album sous le nom de Amber Arcades, et qui revient déjà avec un épatant maxi de 5 titres. Un nouveau pas pour une musicienne qui a commencé à jouer au début de la décennie dans l'intimité de sa chambre, avec une guitare acoustique et un penchant naturel pour le folk, avant de frotter ses chansons à l'électricité et à une poignée de musiciens new-yorkais pour produire une pop à guitare efficace et délicate. La bonne surprise avec son nouveau disque, c'est que la palette musicale et l'horizon d'Amber Arcades semblent s'élargir, avec d'un côté quelques nuages de chansons tristes et évanescentes et de l'autre, le plein soleil.
Oui, l'extrait du dernier album d'Amber Arcades, avec lequel nous refermons cette série d'éditions de la semaine, réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve lundi à 17h40 en universel.